voudrais vous raconter l'histoire d'une délivrance, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un homme qui aime les mots plus que de raison. Il les aime à la folie, alors on ne sera pas surpris d'apprendre qu'il ne les aime pas trop sensés, pas trop signifiants, pas trop clairs. Il est homme du clair-obscur, du noir lumineux, du soleil noir de la mélancolie. Il est homme ébloui devant les mots qui sonnent, s'envolent en images, s'évaporent en couleurs. Il est homme du poème et les mots, il les aime pour eux-mêmes. Non pas pour ce qu'ils signifient, même s'ils signifient bien sûr. Mais lui se fie au son davantage qu'au sens, au son et à l'ivresse, au staccato des mots quand il s'emballe comme un cheval, à leur beauté penchée quand enfin il se repose ici-bas couché sur une feuille. Calme bloc ici-bas, chu d'un désastre obscur. C'est l'histoire d'un langage arraché à la communication pour devenir enfin parole, c'est-à-dire musique. La musique et la poésie ont ceci de commun qu'elles délivrent les mots de leur fonction instrumentale, sociale. Quelle joie enfin de ne plus communiquer. Que les mots ne soient plus les mots de la tribu, mais une lueur capable de guider les étoiles singulières et puis un baume au cœur. Quand les mots cessent de résonner pour se mettre à raisonner, il y a de la place pour tous, soudainement, dans le monde d'un coup redevenu vaste, rendu à son immensité. Il aime les mots bleus, les mots qu'on ne dit pas parce que la musique suffit, la grâce de ce langage libéré du carcan de la raison, de la gaine, du logos, débarrassé du raisonnable, autant que du rationnel. Il aime les mots qui ont des ailes, s'envolent dans le ciel comme des images, pour dire la vérité d'une âme humaine, qui ne s'explique pas, ne se mesure pas, ne se calcule pas, pour dire, ou plutôt pour échouer à dire, mais laisser entendre et deviner ce qui ne se calcule pas mais compte tant. Cette étrange beauté, ce rêve pénétrant, ce résistant mystère de l'âme humaine. Pour en parler ce matin, de musique et de poésie, j'ai la joie de recevoir le musicien Sylvain Aurel. Oui, vous avez bien entendu, il y a de l'or dans son nom, de l'or et des ailes. Sylvain Aurel, compositeur de musique de film et chanteur, créateur également d'un excellent podcast sur les poètes maudits. Sylvain Aurel, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, pour nous aider à méditer cette belle question. Pourquoi avons-nous-t-on besoin de musique et de poésie ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Sylvain Aurel, bonjour.
Bonjour Charles.
Comment allez-vous ?
Ben, très bien, et vous ?
Très bien. Est-ce que je vous surprendrais si je vous demanderais de répondre tout de suite à cette question ? Pourquoi on a tant besoin de musique et de poésie ?
Est-ce que vous me surprendrez ? Ça, j'en sais rien, mais je peux vous donner les choses telles que je les vois. On a besoin de musique, on a besoin de poésie, parce qu'on a besoin... d'entendre un langage qui n'obéit pas à une grammaire, qui oui. va ailleurs que là où les mots voudraient mener leur stratégie, leur pouvoir, leurs oui. règles, les choses qu'ils ont à faire. Un endroit de hasard, de rencontre.
De liberté.
De liberté.
De gratuité aussi.
De gratuité.
Alors, on va entrer dans le vif du sujet, et notamment en abordant votre podcast sur les poètes maudits, mais avant cela, je voudrais quand même vous présenter par ce qui est justement un peu votre fonction sociale, même si vous êtes là pour nous montrer que nous pouvons nous en libérer. Et pour que nos auditeurs sachent qui vous êtes, je voudrais parler de certains films qu'ils ont peut-être vus. Hippocrate de Thomas Lilti, Médecin de campagne de Thomas Lilti, Premières vacances avec Camille Chamou et Camille Cotin, Photos de famille avec Vanessa Paradis et Camille Cotin, Slalom récemment au Festival de Cannes il y a un an, et puis la série Vernon Subutex et tant d'autres. Et bien, quel est le point commun entre tous ces films ? C'est que vous en avez fait la musique.
J'en ai fait la musique, nous en avons fait la musique, puisque j'ai la chance de travailler, de tout partager avec deux camarades, une sorte de groupe de compositeurs.
Je crois que vous appelez Love Entertainment.
Exactement.
Ça veut dire que dans toute musique de film, il y a un peu d'amour comme ça et de divertissement ?
On s'appelait autrefois Low Entertainment, et puis il nous a semblé que l'heure de l'amour était arrivée, donc on prononce différemment maintenant.
Alors qu'est-ce qu'une bonne musique de film ? Est-ce que c'est une musique qu'on n'entend pas ? Ou est-ce que c'est une musique qu'on entend et qu'on trouve belle ?
Alors, on dit souvent qu'une bonne musique de film, c'est une musique qu'on n'entend pas. Parce qu'on est embarqué dans quelque chose de total, dans un univers, dans un monde, et qu'on n'a pas besoin de savoir... si le cordonnier a fait des bonnes chaussures, si la secrétaire de la Paramount était à l'heure, et voilà, on est parti dans une histoire, et la musique finalement en est qu'un des compartiments, on n'a pas à se pencher dessus. Maintenant évidemment il y a autant d'exemples que de contre-exemples, il y a des moments où une musique, parce qu'elle est insistante, donne une épaisseur particulière au film, par exemple... Bon, je sais pas si je pense à In the Mood for Love, si vous l'avez vu ce film, où il y a ce thème qui revient, revient beaucoup, qui revient peut-être trop si on l'aime pas, là c'est foutu.
Ouais.
Mais qui quand même porte justement une transe, une poésie, un rythme qui ne sort pas du film mais participe du film.
Mais finalement, qu'est-ce que vous préférez faire, vous ? Une musique qui va dans le sens d'une scène, qui la souligne, ou une musique qui justement va contre la scène pour faire un mouvement de contrebalancement ?
Bah, ce balancier, c'est la question qui anime le compositeur sur l'ensemble du film.
Ouais.
La question se règle juste précisément sur l'ensemble du film. C'est-à-dire que c'est qu'une fois qu'on a réussi à percevoir un rythme d'ensemble, une dramaturgie, une narration, c'est à ce moment-là qu'on peut se représenter le moment où on va essayer d'aller dans le sens d'une scène ou aller contre une scène.
Ouais.
Donc, moi, j'ai pas de préférence. Ce qui m'intéresse, c'est de faire le meilleur film possible.
Donc, vous considérez la musique comme étant vraiment au service du film ?
On est là pour faire un spectacle, pour faire un objet qui est un film. Et oui, bien sûr qu'il faut être au service du film, du cinéma, si possible.
Alors, on va prendre deux exemples de musique de film que vous avez faites, celle du film Slalom et celle de Médecin de campagne. On va commencer par Médecin de campagne. Je vous propose qu'on l'écoute et que vous nous expliquiez un petit peu comment vous avez fait pour à la fois vous laisser porter, j'imagine, par le film, et puis aussi le porter. Sylvain Aurel, on entend la musique que vous avez faite avec vos deux acolytes de Love Entertainment. Alors pour ceux qui ont vu le film, c'est hallucinant, comme la musique fait revenir tout le film. On est soudain plongé dedans. Comment ça se fait ?
Alors ça, je sais pas, c'est le pouvoir de la réminiscence de la musique, c'est un sujet en lui-même. Mais ce que je peux vous raconter pour faire le lien avec l'histoire de aller contre ou avec une scène, c'est que on a eu pas mal de mal à trouver la note de ce film avec Thomas.
Thomas Litti, je précise, le réalisateur, que vous accompagnez depuis beaucoup de films.
Ouais,
vous avez fait Première Année, Hippocrate, la série. Je crois que la série, c'est aussi de lui.
Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, on avait reçu le scénario, les premières images, et on avait envie. D'aller au plus près de l'histoire de ce personnage qui est un médecin de campagne en Picardie, qui a un cancer et qui ne peut pas en parler parce qui viendra avec lui, après lui, qui pourra le relayer, il n'en sait rien. Donc on était parti dans un univers de violoncelle, et de piano solo.
Et c'est pas du tout ce qu'on entend là.
Et c'est pas du tout ce qu'on entend. On a eu du mal.
C'est très intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que là, je le réalise, enfin j'en prends conscience en vous écoutant et en écoutant en même temps ce qu'on est en train d'entendre, c'est que c'est presque un contre-emploi. C'est-à-dire qu'on, c'est un film triste, dur, avec une balade solitaire, beaucoup d'errance. Et là, on a finalement, si on écoute la musique indépendamment de ses thèmes et de cette narration, elle est plutôt sympathique et plutôt enjouée.
Ouais, elle se construit un peu progressivement pour raconter l'énergie, la manière de vivre et de travailler des médecins de campagne qui vont comme ça d'un endroit à l'autre. Elle n'est pas particulièrement triste. Alors que l'histoire est plutôt un petit peu dure, pas seulement bien sûr, mais un petit peu quand même.
Et alors à l'inverse, on va écouter maintenant la musique du film Slalom que vous avez réalisé. Enfin, le film a été au Festival de Cannes il y a un an, je crois, et on va voir que c'est le contraire. Alors d'abord, ce que je tiens à dire, avant de je vous coupe la parole avant même que vous ne parliez, c'est que je trouve ça très beau, c'est toujours beau ce que vous faites, et quelque part on vous reconnaît, mais là j'explique un peu pour les auditeurs que pourquoi c'est le contraire. Parce que le film raconte l'histoire d'une jeune fille qui fait de la compétition, je crois que c'est une... Qu'est-ce qu'elle fait comme...
C'est une jeune fille qui veut devenir championne de ski.
Voilà, donc il y a de la vitesse, de la rugosité, de l'agressivité, donc on aurait imaginé un truc électro, un peu comme la musique par exemple de 120 battements par minute qui est faite par Arnaud Robotini, et ben non, on a des violons et une orchestration douce.
Ben oui, alors il y a aussi quand même des moments d'énergie, mais finalement, il y avait quelque chose qui s'imposait, aussi d'ailleurs en voyant les images, c'était la présence de la montagne, qui était comme une espèce de force tellurique un peu gigantesque, ouais. qui posait son souffle lent, et ça nous a paru plus pertinent d'aller dans cette piste, plutôt que de foncer sur l'énergie pure.
Oui, alors ce que vous faites quand même parfois, c'est pour ça que j'ai dit que c'était le contraire des médecins de campagne, parce que parfois vous collez, parfois il y a une adéquation en fait, et de la musique et de la narration, et parfois il y a une inadéquation.
Oui, oui, on n'est pas toujours du même côté de l'ironie.
Et pourquoi vous dites ironie ?
Ah, je pense à l'ironie dramatique, c'est-à-dire le fait de partager ou pas une information par rapport à l'idée du premier degré, soit le faire vivre, soit prendre une distance pour le faire vivre. C'est ça l'idée que je me fais de l'ironie dramatique.
Mais alors, dans ce cas, si on vous suit, si l'ironie c'est cette distance avec, parce qu'il y a mise en scène, au fond, tout film est ironique.
Complètement. Le cinéma est un objet ironique.
Il n'y a pas de cinéma au premier degré.
Alors, il y a dû en avoir, j'imagine, au temps de Méliès, maintenant, on est au bout de 100 ans d'histoire du cinéma, donc là, on parle même plus de musique, on parle simplement de pop culture, c'est-à-dire que les films sortent et se suivent, et donc on ne peut pas s'exonérer des autres
impressions. Oui, de la référence. Ouais, de la référence. Ouais. Alors, cet échange avec vous, Sylvain Aurel, me fait penser, alors je mets ma casquette de prof de philo, mais si je vous saoule, vous me demanderez de l'enlever, à une définition de la beauté. Il y a un débat en esthétique. Est-ce que la beauté, c'est l'adéquation du fond et de la forme? Ça, c'est la beauté classique, d'après Hegel, par exemple. Ou est-ce qu'il n'y a pas beauté dès qu'il y a une inadéquation entre le fond et la forme? Quelque part, c'est une question que vous devez vous poser quand vous faites la musique d'un film.
Ben, ouais, c'est un peu cette idée aussi du bizarre, du quelque chose qui rompt un équilibre, qui a évidemment un charme et une puissance en elle-même, très forte. Après, encore une fois, c'est vrai que la musique de film, elle sert le film. Donc, cette question, c'est au réalisateur de la trouver, de la trancher.
Alors, vous m'avez amené à une transition parfaite pour arriver à ceux qui sont plutôt sans ironie, justement, et qui, parfois, viennent d'un monde d'avant, à savoir les poètes maudits. À vrai dire, si j'ai eu très envie de vous inviter sous le soleil de Platon, c'est pas tellement pour parler de ce qui est votre métier, hein, qui est très bien, mais c'est parce que j'ai complètement flashé sur ce podcast, qui s'appelle le podcast Maudit, dans lequel vous êtes à la fois un historien des poètes maudits, un musicien qui met en musique ses poèmes, et puis aussi un créateur, puisque quand vous animez ce podcast, quand vous parlez, dans votre parole se mêlent les poèmes que vous évoquez et la manière que vous avez de les raconter, pour finalement les mettre en musique. Alors, je vous propose qu'on rentre tout de suite dedans avec un premier exemple pour qu'on comprenne de quoi on parle et qu'après on essaye ensemble d'analyser ce besoin de poésie à partir de votre podcast Maudit.
Des essais. Allons donc, je n'ai pas essayé. Étude. Fainéant, je n'ai jamais pillé. Volume. Trop broché pour être relié. De la copie. Hélas non, ce n'est pas payé. Un poème. Merci, mais j'ai lavé ma lyre. Un livre encore est une chose à lire. Des papiers? Non, non, Dieu merci, c'est cousu. Album? Ce n'est pas blanc et c'est trop décousu. Bourrimé? Par quel bout et ce n'est pas joli. Un ouvrage? Ce n'est poli ni repoli. Chanson? Je voudrais bien, oh ma petite muse. Passe-temps? Croyez alors que ça m'amuse. Vous avez flué des vers, non, c'est torté.
Alors on est obligé.
Vous avez
d'interrompre, mais c'est tellement excellent que j'ai du mal à reprendre le micro, je me sens un peu nul juste après, parce qu'il y a tout, quoi. Il y a la poésie, il y a la narration, puis il y a la musique. Racontez-nous un peu ce projet, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Là, c'était Tristan Corbière.
Ouais, il y a tout, il y a surtout Tristan Corbière quand même.
Oui, parce que là, j'explique, dans ce qu'on entend, c'est le poème de Tristan Corbière que vous mettez en musique.
Voilà.
Sauf qu'à d'autres moments, qu'on va écouter bientôt, c'est vous qui racontez, qui introduisez l'histoire du poète maudit.
Oui, bon, en fait, moi, tout simplement, j'aime beaucoup la poésie. J'ai remarqué que c'était un objet qu'on croisait de plus en plus rarement après la première. Une première fois dans les petites classes et après en première. Et puis après, on n'a plus beaucoup d'occasion de le croiser. Je trouve ça tellement dommage parce que c'est l'occasion de, comme on dit chez vous, de d'aller sur les épaules des géants, quoi. C'est de fréquenter des
gens. Mais alors pourquoi simplement les maudits?
Alors, les maudits, déjà parce que ça donnait une cohérence au propos.
Ouais.
Et puis surtout parce que les maudits, c'est un livre à la base de Verlaine, dans lequel il se met d'ailleurs sous un anagramme, Pauvre le Lion.
Ah oui, Pauvre le Lion Verlaine.
Voilà, qui est en fait Paul Verlaine. Et donc c'est un livre qu'il a écrit lui, qui est devenu une expression consacrée. Les poètes maudits, bon, c'est un peu comme le lard fumé, quoi. C'est poète maudit.
Ouais.
Et derrière tout ça, il y a un livre, il y a 6 auteurs.
Lesquels?
Ah ben, il y a Tristan Corbière, bien sûr, il y a Rimbaud, il y a Mallarmé, il y a Villiers de l'Isle-Adam, il y a Gérard de Nerval, il y a, voyons voir, Verlaine lui-même, bien sûr, ouais. Et puis...
Puis après, vous en avez, René Vivien,
ouais.
Et puis après, vous en avez ajouté d'autres.
Non, René Vivien, elle n'est pas dans les poètes maudits, je les considère un petit peu comme poètes maudits, mais elle est venue un petit peu après, on l'appelait Sappho 1900.
Alors c'est de Noailles, c'est ça, Anna de Noailles?
C'est, non, qui est venue aussi après, ouais. Non, c'est Marceline Desbottes-Vallon.
Ah oui, exact, c'est un exemple. Ouais. Et alors, on vous a entendu, là... à partir de Tristan Corbière. Est-ce que vous êtes au service de la poésie comme vous êtes au service du cinéma?
Alors, j'espère, mais sauf que j'en attends pas les mêmes émoluments, si vous voulez. Donc, la poésie, je pense que c'est quelque chose qui est fait pour être gratuit, accessible, disponible. Difficile à entendre aujourd'hui. On va pas aller au club de poésie écouter un poète. Prendre un poème parce qu'on a le livre dans ses toilettes, bon ben c'est déjà bien, mais c'est rare. Entendre de la poésie, c'est franchement difficile. Donc ouais. Voilà, j'avais envie de.
C'est ce que vous réussissez à faire merveilleusement. On va y revenir, mais avant, pour vous découvrir un peu sous un autre jour encore, vous êtes aussi chanteur et vous avez sorti sous le titre Vieux pas mal de titres, dont celui-là que je voudrais que nous écoutions ensemble.
Manu Reva.
Soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Sylvain Aurel sur le Soleil de Platon et nous venons d'écouter une excellente reprise d'Alain Chamfort par Vieux. Alors Vieux, c'est vous Sylvain Aurel. J'avoue qu'on est un peu perdu. J'essaie de me mettre à la place des auditeurs. On a commencé par des musiques de films, notamment de grosses séries, Vernon Subutex, de films grand public, etc. Puis on est passé au Poète Maudit et là vous faites une reprise un peu légère d'Alain Chamfort. D'où ma question, un peu frontale ce matin, mais qui êtes-vous ?
Je suis un rêveur, quelqu'un qui cherche le passage du Nord-Ouest, un endroit où on pourrait rencontrer tous ces mondes, la poésie, la musique.
Il y a d'ailleurs beaucoup de mondes au sens où il y a beaucoup de références, quand même beaucoup d'emprunts. Là, voilà, les Poètes Maudits, Verlaine, Rimbaud, les autres. Ici, beaucoup de reprises. Alors, je précise que pendant le confinement, vous avez sorti, donc, sous ce nom de Vieux, plein de chansons, je dirais une quarantaine. Parmi ces chansons, il y a beaucoup de reprises. Il y a, je dirais, un tiers sont des reprises. Je recommande à tout le monde d'aller se précipiter sur la plateforme de son choix pour écouter Les Princes de la Ville, une reprise de Michel Berger vraiment excellente. Et puis aussi, énorme, la reprise de PNL à l'ammoniac. Alors, déjà, l'original est bien dark, mais là, c'est plus dark que dark, jusqu'à trouver la lumière. Et puis, il y a aussi 25 chansons originales, très belles. Tout ça fait que on a envie de revenir quand même au Poète Maudit pour essayer de trouver peut-être la clé de cette énigme. Alors, on a commencé tout à l'heure avec Tristan Corbière. D'ailleurs, vous faites un jeu de mots à un moment, Corbière, c'est ça ?
C'est pas moi qui le fais le jeu de mots, c'est lui. Tristan Corbière, c'était comme ça qu'il avait choisi son nom.
Et encore bière, c'est presque encore billard.
Ouais, comme un corps en bière, comme un corps mort. Il était breton d'ailleurs, je crois.
Ouais, alors ils sont la plupart de ces poètes morts jeunes. Et puis vous nous racontez ça. Donc on passe ensuite à Rimbaud. C'est le deuxième de. Je crois qu'il y en a 16 dans votre podcast. Alors on va écouter ce que vous faites sur Rimbaud pour montrer un peu la diversité de la manière dont vous rendez sensible, vous nous permettez d'accéder, parce qu'il y a quand même un projet hein, de rendre la poésie accessible. On va écouter Rimbaud, et puis après, on va essayer de comprendre finalement quels sont les différents modes opératoires par lesquels vous nous dites combien la poésie est salutaire.
Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baisse ses seins et déploie en corolle ses grands voiles versés mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule, sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle veille parfois dans un dôme qui dort, quelques nids où s'échappe un petit frisson d'aile. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Ophélia, belle comme la neige. Oui, tu mourus enfant par un fleuve emporté. C'est que les vents tombants des grands monts de Norvège, t'avais parlé tout bas de l'âpre liberté. C'est qu'un souffle tordant ta grande chevelure, à ton esprit rêveur, portait d'étranges bruits.
Ah voilà, c'était Rimbaud, mise en musique par vous, Sylvain Aurel. On entend évidemment la résonance gainsbourgienne, et racontez-nous un peu comme ça, cette espèce de chambre d'écho de la Ophélia de Rimbaud à Melody Nelson de Gainsbourg.
Ouais, l'Ophélie de Rimbaud, en fait, est une citation à l'Ophélia de Shakespeare lui-même. L'Ophélie, c'est cette figure, cette femme noyée par amour, cette femme qui attend, passive, sous l'eau, pendant 1000 ans que quelque chose se passe, cette femme dont on ne sait pas si elle porte une colère en elle et qui ressemble beaucoup à Melody Nelson, perdue quelque part, disloquée dans ses...
personne.
Jamais. Et les lumineux coraux et beaucoup d'images qui s'entrechoquent et qui m'a paru intéressant aussi d'évoquer. Avant de lire les poèmes, je les présente un petit peu, et c'est vrai que c'est amusant de voir que c'est aussi une grande généalogie de voleurs, les poètes.
Bah oui, les voleurs, et les voleurs de feu d'ailleurs. Je vous ai demandé tout à l'heure de manière un peu amusée qui vous étiez. Vous diriez que vous êtes, pour une grande part, l'enfant de toutes ces images-là?
Ben nécessairement, je pense vous aussi, non?
Oui, mais là, je parle de vous. Est-ce que vous avez un souvenir dans l'enfance, par exemple, d'une rencontre avec comme ça une image dans un poème qui peut-être vous poursuit toujours?
Pas vraiment. L'enfance, j'ai des images et je les ai retrouvées dans les poèmes plus tard, en fait. Ça s'est plutôt fait dans
l'enfance. Ah oui.
Mais par contre, mes vrais chocs de poésie, ils sont sur les bancs du lycée, en première, avec un prof que je détestais, mais qui avait des bons textes entre les mains.
Bah, visiblement, il n'a pas été si mauvais, hein, quand on voit ce que vous faites maintenant. On va écouter ce que vous venez d'annoncer, que parfois vous présentez le poète de manière un peu didactive pour nous conduire comme ça sur le seuil de l'éclatante beauté.
Et voici l'un des plus attachants. Maudit et poète entre tous, le desticciado, le déshérité, pauvre fou qui fut retrouvé pendu aux grilles du Châtelet un 26 janvier 1855. Il avait écrit la veille à sa tante « Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche. » Gérard Labruni, doux mégalomane s'inventant une particule devenue de Nerval. Gérard, grand voyageur, petit prince, condamné à n'être jamais adoubé par sa reine, lui qui ne connut pas sa mère. Gérard, né déshérité, en quête perpétuelle d'un passé qui n'existe pas et qui connut la vraie démence, celle des internements et des visions de cauchemar. Gérard, qui choisit le rêve et le symbole, l'hermétisme antique et l'ésotérisme héraldique, comme un voile pudique pour parler de lui et témoigner entre deux crises de folie de sa douleur d'éternel orphelin. Car derrière le mystère, le goût pour les armoiries, les arcanes du tarot et les références antiques, il y a la vérité du sentiment et de l'état psychique. Une voie étroite entre la folie, les songes et le réel, où se dessinent des images intimes sur un paravent symbolique.
Je vous voyais vous écouter, mais surtout penser à Gérard de Nerval. Cette souffrance quand même des poètes maudits vous touche, j'ai l'impression.
Ouais, complètement. Et celle de Gérard plus qu'un autre, avec ce message bouleversant à sa tante. Et ce poème, qui est un des plus beaux de tous, qui paraît complètement obscur si on ne se penche pas dessus, et qui a pourtant des sonorités merveilleuses, qui raconte assez précisément son parcours à lui. Deux fois il a traversé la Caron, deux fois il a été interné pour crise de démence, et il est ressorti de l'enfer avec sa lyre, comme Orphée. Et tout au long de ce poème, il y a en fait une vraie explication de son destin, de ce qui l'a animé et de là où ça va le mener aussi.
J'ai l'impression que cette figure d'Orphée est une figure qui vous guide dans ce projet de podcast maudit.
J'aime beaucoup Orphée. D'abord, je trouve que ça sonne très bien, justement, puisqu'on parle de poésie. Et puis, la lyre d'Orphée, c'est la tradition un peu perdue, dont Verlaine, d'ailleurs, voulait Verlaine, dont on disait qu'il était le poète musicien, il voulait rassembler les muses qui s'étaient autrefois fâchées entre la musique et le verbe. Et c'était aussi précisément le projet d'Orphée, C'est-à-dire lier la poésie à la musique, psalmodier, chanter, ça lui a permis quand même de sortir de l'enfer, donc je le conseille à tous.
Enfin, il est sorti, mais il a perdu sa femme.
Ouais, il y a un prix à toute chose.
Alors, c'est aussi votre projet, enfin, toute proportion gardée, évidemment, mais quand même...
Non, je veux garder ma femme.
Ouais. cette manière d'échapper à la raison, en fait, dans les deux cas, et d'échapper à la gang, comme ça, du sens, on pourrait dire. Du sens. On dit souvent, oui, la philosophie, c'est la quête du sens, ça m'exaspère. Il y a toute une philosophie qui ne recherche pas le sens, mais à se tenir comme ça, devant le mystère. Et cette philosophie-là, elle rejoint la poésie, elle rejoint la musique.
Oui, complètement. Moi, si vous voulez, sans vous raconter ma vie, j'ai été élevé dans un cadre où le mot, le verbe, le langage était vraiment quelque chose de très précieux, très central et cardinal. J'imagine qu'on cherche toujours ce qu'on n'a pas ou ce qu'on a moins. Et donc là où le mot est plus difficile à définir, là où il peut trouver un autre sens ou alors s'entrechoquer avec quelque chose d'autre.
Ou devenir musique, devenir son, n'avoir plus de sens.
Voilà, n'avoir plus de sens.
Parce que quand on écoute le poème de Nerval qui vient suite à votre présentation dans le podcast Maudit, dans votre podcast Maudit, en fait, c'est presque incompréhensible au début. Mais c'est beau. Et on n'a pas envie de comprendre, ça qui est fou. Alors que on voudrait tout le temps comprendre, posséder, arraisonner. La poésie nous apprend que nous pouvons aimer sans comprendre.
Complètement. Et non seulement qu'on peut aimer sans comprendre, mais qu'on doit aimer sans comprendre.
Oui, alors vous avez fait une allusion à votre enfance, à votre milieu social. Je me permets d'en parler un peu sans impudeur, parce que c'est intéressant de savoir d'où vous venez. Vous êtes le fils d'un grand préfet de la République, vous avez fait Sciences Po, puis l'ESSEC, puis Prépéna. Vous faites un peu penser, de ce point de vue-là, en plus vieux, je dois vous l'avouer, mais vous vous appelez vous-même vieux, aux membres du groupe Feu Chatterton, qui sont tous issus des grandes écoles et qui sont aussi très lyriques et qui aiment beaucoup la poésie, comme vous. Et puis finalement, vous avez un peu tourné le dos quand même à ce monde-là, le monde des beaux parleurs, le monde des grands diplômés, pour faire de la musique. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, il y a deux choses. Il y a la musique en elle-même et son appel. Et puis il y a aussi, en creux, la crise du modèle dans lequel j'étais un petit peu coulé. C'est-à-dire que l'idée de service public, l'idée de faire quelque chose justement... qui serait un petit peu au-delà des contingences, de l'intérêt, du rapport matériel, de la dimension un petit peu spirituelle, transcendantale du service public. Elle en avait pris un bon petit coup en 95.
Vous n'êtes quand même pas en train de nous dire que vous avez voulu retrouver quelque chose de la transcendance du service public en le quittant et en faisant de la musique.
Un petit peu, si on pourrait parler on pourrait parler de la transcendance de l'État, de la manière de lever les yeux vers le ciel, mais disons que oui, en tout cas, c'était devenu difficile d'en faire un rêve de 18 ans à ce moment-là pour moi.
Alors dans votre podcast Maudit, donc il n'y a pas que des poètes, il y a aussi de nombreuses poétesses, et notamment celle-là, Renée Vivien. Je voudrais qu'on écoute comment vous la présentez, et après qu'on écoute comment vous la mettez en musique, parce que c'est deux moments très différents du podcast.
Poète maudite ou poétesse maudite, Renée Vivien, alias Pauline Mary Tarne, aka Sappho 1900, en a tous les attributs. Moitié Lady Oscar, moitié Jane Birkin, posant en frac et haute forme, surplombant sa blonde chevelure, fière et belle dans ses costumes d'homme 1900, sûre de son génie lesbien. Renée Vivien, morte comme les autres d'alcool et de chagrin, cœur brisé sur les récifs du Gotha, ayant trop voulu aimer les comtesses et les femmes d'ambassadeurs, et au fond vivre sa condition de femme aimant les femmes. Renée, qui ne s'alimentait plus que d'alcool, et meurt d'épuisement au matin du 18 novembre 1909, âgée de seulement 32 ans.
Voilà comment Sylvain Aurel, dans votre podcast Maudit, vous présentez Renée Vivien. Maintenant, écoutons comment vous la faites chanter.
Et le sanglot qui monte avec monotonie, s'exaspérant enfin de trop de volupté, hurle, oblondure le moment d'agonie, sans espoir d'attendrir l'immense surdité. Puis l'atroce silence et l'horreur qu'il apporte, le brusque étouffement de la plaintive voix, et sur le cou, pareil à quelques tiges mortes,
c'est vraiment très beau. Alors, vous avez peut-être renoncé au service public, mais c'est d'utilité publique ce que vous faites. Alors, on devrait, franchement, il n'y a rien de mieux pour un prof de français que d'enseigner votre podcast maudit à ses élèves. On est touché, on est ému, on a envie d'aller plus loin. Moi, j'avoue, je ne connaissais pas tous ces poètes maudits, on connaît que les plus grands. Je ne savais même pas, moi, peut-être je suis très inculte, mais je ne savais pas que c'était un livre de Verlaine, en fait, qui avait créé cette étiquette-là. Et donc, c'est tout ce qu'on découvre dans votre très beau podcast. Je vous ai préparé un petit son de Clara Luciani, qui elle aussi rend à sa façon, un hommage à René Vivien.
Droite et longue comme un cyprès, mon ombre suit à pas de louve, mais pas que l'aube désapprouve. Mon ombre marche à pas de louve, droite et longue comme un cyprès. Elle me suit comme un reproche dans la lumière du matin. Je vois en elle mon destin qui se resserre et se rapproche. À travers champs, par les matins, mon ombre suit comme un reproche. Mon ombre suit comme un remords la trace de mes pas sur l'herbe lorsque je vais, portant ma gerbe, vers l'allée où gîtent les morts. Mon ombre suit mes pas sur l'herbe, implacable comme un remords.
Beau. C'est très beau. Puis ça, pour le coup, ça s'appelle Chanson pour mon ombre et c'est une chanson. C'est véritablement une chanson, c'est-à-dire que je l'entends déjà, je pourrais le mettre en musique facilement.
Mais voilà.
Ben voilà, vous n'êtes pas tout seul. Hein. dans votre amour de la poésie, est-ce qu'il y a aussi une manière d'échapper à quelque chose, comment dire, de trop lourd ? Parce que le cliché, c'est-à-dire la poésie, c'est plombant, quoi. Et en fait, la vie est plus légère. Mais en fait, c'est presque le contraire que vous montrez. C'est que, de toute façon, la vie est plombante, la norme est plombante, le conformisme est plombant, et la poésie, c'est la lumière de la singularité.
Oui, alors j'espère que la poésie n'est pas plombante. Ça, c'est
en tout cas, elle n'est pas plombante dans votre podcast.
Ouais, c'est très gentil, mais d'une manière générale, je crois que encore une fois, la poésie a été un petit peu victime de son usage mnémotechnique. Apprendre, on apprend les choses par la poésie. Donc voilà, c'est un truc qui passe par l'école. En fait, moi, j'ai l'impression que la poésie, c'est un peu comme un training de l'âme. C'est quelque chose qui permet de s'entraîner à voir les toutes petites déchirures qui peuvent apparaître dans le monde, dans la vie, et qui sont difficiles à détecter, qui sont là et qui enchantent l'existence, en fait.
Des déchirures dans lesquelles passe la lumière. On pense évidemment à cette phrase très connue, à cette chanson très connue de Leonard Cohen, hein, c'est là où il y a une faille que passe la lumière. On va écouter Nick Waterhouse.
Are you lost and lonely? No home time, did you arrive just a waiting line? Are you left thinking that there's no there there? Well, the people care till they just don't care. My voice and I think I keep it. Did I see you walking while you were sleeping? Did I hear you talking? It's like you got some notion. Do you see a mirror where I see an ocean?
c'était Nick Waterhouse to Tell.
France Inter.
Azur, nos bêtes sont bondées d'un cri. Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la nibe dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint John Perse.
Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint John Perse.
Sous le soleil de Platon.
Ça vous fait bien rire, Sylvain Aurel.
Oui, mais je ne mettrai pas les fesses à l'air pour autant.
Donc, vous êtes le créateur de ce podcast maudit, dans lequel on entend les poètes maudits, Tristan Corbière, Rimbaud, Mallarmé, Gérard de Nerval, René Vivien et tant d'autres. Beaucoup de femmes, je le précise. Vous les mettez en musique, mais j'ai l'impression que, quand même, le musicien que vous êtes se fait discret. Parce que ce que vous voulez, c'est qu'on écoute, en fait. Qu'on arrive à entendre cette poésie.
Ouais, c'était un petit peu un des trucs, c'était profiter de l'élan, de la force, de la transe de la musique, mais pas écraser évidemment les sonorités et pouvoir les entendre, c'est-à-dire qu'elles soient dites, qu'elles soient dites à voix haute, qu'elles soient un peu comme psalmodiées. On n'entend plus de poésie à voix haute aujourd'hui, ou enfin peut-être que ça va revenir, je le souhaite.
Ce que je trouve intéressant, c'est que la sortie de votre podcast, à mon avis, s'inscrit dans une tendance qui commence, qui est douce, hein, mais c'est comme des petits signes comme ça en marge. Il y a de nouveau des philosophes, des écrivains qui donnent rendez-vous à des gens dans des salles de concert, salles de spectacle pour lire des textes. Il y a la Maison de la Poésie à Paris, et vous êtes un peu dans ce mouvement-là, quelque part, dans l'agitation, dans le tumulte, dans le vacarme de l'époque, certaines voix, comme la nôtre, nous disent « Vas-y, tends l'oreille, détends-toi et écoute et arrête d'essayer de tout comprendre. Mais juste écoute, entends et sois présent aussi. » La poésie, c'est ça, c'est une manière d'être présent au monde.
Complètement. Et écouter de la poésie, c'est pas nécessairement aller à la messe, c'est pas s'infliger une heure assis à écouter des gens qui parlent. Il y a plein de manières de la faire entendre, avec des instruments ou pas, avec d'autres choses, dans le cadre d'une soirée ou pas. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut retrouver. Autrefois, les gens priaient, les gens allaient à l'église. Ils avaient l'occasion de dire de la poésie à voix haute, les psaumes, c'est ça. Je pense qu'on peut réinventer ça sans les églises.
Alors Sylvain Aurel, je vous ai proposé un petit quiz, un quiz un peu poétique, un peu musical. Allons-y. On essaye des réponses courtes. Rimbaud ou Verlaine ?
Rimbaud.
Pourquoi ?
Parce que c'est la fulgurance totale, parce que Verlaine, c'est le poète musicien, mais c'est humainement quelqu'un de moins intéressant que Rimbaud.
Ennio Morricone ou Francis Lai ?
Ennio Morricone, parce que c'est tout ce que je ne serai jamais.
Apollon ou Dionysos ?
Alors, j'ai rêvé beaucoup de Dionysos, mais je me demande s'il n'y a pas en moi quelque chose qui aime Apollon.
J'ai quand même l'impression, en écoutant votre podcast, qu'il s'agit de mettre en forme le dionysiaque à travers une maîtrise quand même apollinienne. Jacques Audiard ou Michel Audiard ?
Jacques Audiard.
Aurel San ou Booba ?
Aurel San, je crois.
Pourquoi ?
D'accord, parce qu'Aurel San, ça veut dire Monsieur Aurel.
Oui, je n'avais pas pensé que vous appelez Sylvain Aurel.
Et les deux ont énormément de talent, mais dans Booba, il y a aussi des textes, des postures, des attitudes qui me correspondent moins.
Vous préférez un échec qui vous ressemble ou une énorme réussite consensuelle ?
Une énorme réussite consensuelle.
Ouais, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas honnête. Mallarmé ou Nerval ?
Nerval.
Tristesse ou mélancolie ?
Mélancolie.
Sylvain Aurel, classique ou moderne ?
Moderne.
Pas tant que ça, pourquoi ?
Parce que classique, on n'ose pas.
Ouais. Vous êtes trop modeste. Hein. In the Mood for Love de Wong Kar-wai ou Le Prophète de Jacques Audiard ?
In the Mood for Love.
Et bien évidemment, la question, Sylvain Aurel, joie ou bonheur ?
Alors, je sais que vous aimez la joie, mais je crois que je vais choisir le bonheur. Y a une mélancolie dans ce mot, donc on parlait de poésie. Le bonheur, c'est un petit peu triste.
Mais ce qui est triste, c'est qu'on l'atteint jamais ? Ou ce qui est triste, c'est le bonheur quand on l'atteint ?
Ce qui est triste, c'est que le bonheur, on se rend compte qu'on était avec lui quand il s'est enfui.
Oui, c'est la phrase de Jacques Prévert. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Voilà. Mais quand même, votre réponse me surprend un peu. Moi qui ne suis pas musicien, qui ne suis pas chanteur, qui n'ai pas créé le podcast Maudit, parce que y a pas, c'est une joie en fait que nous procure la musique. Au fond, l'émotion esthétique, c'est pas le bonheur, parce que c'est fugace, c'est une joie.
C'est peut-être aussi pour ça que je choisis le bonheur, c'est parce que j'ai la chance de fréquenter la joie dans mon métier, dans ma vie, pas mal.
C'est d'ailleurs une question que je voulais vous poser dans le quiz, mais je vais la faire maintenant. Il y a deux grands, dans la théorie esthétique, il y a deux grands concepts. Il y a le beau, une forme d'harmonie, quoi. Et la beauté extérieure, dans son harmonie, dit Kant, peut créer une harmonie interne chez celui qui est touché. Et puis, il y a le sublime, qui est plutôt violent, plutôt une disharmonie, et qui crée en nous, non pas un apaisement, mais une élévation, comme une déchirure. Au fond, qu'est-ce qui vous parle le plus, le beau ou le sublime ?
Le sublime.
Ouais.
Le sublime, évidemment, cet horizon, déjà le mot est quand même assez sublime.
Ouais. Oui, ça veut dire d'ailleurs, étymologiquement, c'est ce qui est au-delà de la limite. Et finalement, tous ces poètes et toutes ces poétesses maudites, ils ont toutes franchi la limite, elles ont toutes rêvé d'un au-delà de la limite et sont mortes très jeunes.
Oui, il y a la recherche de l'horizon qui restera l'azur, comme disait Mallarmé, toujours une idée de sublime.
C'est Mallarmé à arracher les mots aux mots de la tribu aussi, c'est ça ?
Les mots de la tribu, c'est pas plutôt Paul Valéry, ça, non ?
Non, j'avoue que je sais plus. On vérifiera, que chacun aille vérifier sur la plage. Mais l'idée de Mallarmé, enfin si c'est lui, en tout cas peu importe ce qui compte, c'est l'idée. Et c'est ça que vous faites entendre dans votre podcast, c'est qu'on est habitué à entendre des mots soleil, des mots comme mélancolie. Et finalement, ce sont les mots de la tribu, c'est-à-dire qu'ils ont un sens que tout le monde entend et qui permet à la société de se repérer. C'est comme des points de repère. Et ben, qu'est-ce que c'est qu'un poète ? C'est quelqu'un qui nous fait entendre le mot de manière nouvelle. Donc il arrache le mot à la tribu pour le rendre à l'individu singulier. Eh ben, c'est ce que vous faites dans ce podcast. Je vous poserai une dernière question que je pose souvent à mes invités et donc je pense que vous le savez peut-être, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Vous êtes l'enfant de quoi ?
Je suis l'enfant de mon époque d'abord. Je suis un enfant de province aussi, mais ça c'est une autre histoire.
Un enfant de la France, province française.
Oui, voilà.
Oui, c'est vrai que ça, dans votre parcours, il y a eu. C'est très intéressant. D'ailleurs, je pense que quelque chose s'est joué là, puisque votre père était préfet, vous avez beaucoup déménagé en fonction des préfectures qu'il dirigeait, et donc vous avez comme ça eu l'occasion d'un voyage en France.
Ouais.
Quelles furent les villes marquantes et essayez peut-être d'associer à chaque ville une émotion.
Alors il y en a eu plus de 20, donc je ne sais pas si je vais toutes les donner. Je vais aller directement sur celle qui m'a frappé de son soleil noir plus que tout autre.
Ah oui.
C'est Tahiti qui reste. Moi j'avais entre 7 et 11 ans, donc.
Mais pourquoi noir ? On imagine un soleil jaune.
Non, c'était pour parler de Nerval et de son introduction. Un soleil noir, quelque chose d'éclatant, en tout cas quelque chose de très fort, ouais, une persistance rétinienne, quelque chose qui est
un éblouissement, quoi.
Un éblouissement, voilà.
Et après ?
Après, y a des villes moins glamour, mais qui ont beaucoup compté dans mon parcours. Amiens, par exemple.
Ouais.
Où j'étais.
Et pourquoi donc ?
C'est aussi beaucoup l'âge qu'on a quand on fréquente un lieu qui le marque. Mais
j'ai bien connu à Amiens la brasserie Jules, non loin de la gare. Est-ce que vous la connaissez ?
Alors non, quand j'y étais, moi c'était les premiers panachés. J'allais pas tellement à la brasserie encore. Non.
Et à part ça, le voyage en France ?
Le voyage en France, Laval, Amiens, Angoulême, Nantes, Angers.
Et vous travaillez sur quel film en ce moment, en tant que musicien de film ? Je précise que vous avez eu des prix, je crois. Pourquoi déjà ? Vous avez eu des prix à Cannes, je crois ?
Il y en a eu. Celui qui me vient le plus à l'esprit, c'est pour Party Girl.
Ah oui ?
Ouais,
je me souviens, un film génial. C'est une femme de... Attention, politiquement correct, mais assez âgée.
Ouais.
Et qui veut encore vivre, faire l'amour, faire la fête. Et qui est jouée par qui déjà ?
Oui, alors c'est une histoire qui est très inspirée de faits réels, qui est jouée par... C'est un film qui a été réalisé par trois personnes.
Ouais.
Et qui est, le personnage principal est joué par la mère d'un des réalisateurs. Ouais. Et ça raconte plus précisément l'histoire d'une fille qui avait une vie un petit peu de call girl, de fille de charme à la frontière franco-allemande, et qui, approche d'un âge où finalement beaucoup de gens voudraient qu'elle reste à la maison.
Ça fait un petit peu penser à ce film avec Fanny Ardant, voilà, pardon, où elle est mise un peu de force dans une maison de retraite par ses enfants, et puis elle rencontre Laurent Lafitte qui a 30 ans de moins, et elle a envie de vivre, elle a envie de tomber amoureuse, d'avoir de faire l'amour, et tout ça me permet d'arriver à votre portrait, Sylvien Aurel, car l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir accompagnés sous le soleil de Platon. Mais ce soleil a été aujourd'hui celui un peu des poètes maudits, un soleil qui frappe, un soleil un peu violent, un soleil qui éblouit en vous écoutant et en recommandant votre podcast, le podcast maudit qu'on trouve assez facilement sur les plateformes. Eh bien, je pense à ce que c'est qu'être ébloui. J'ai l'impression que c'est ça que vous nous avez appris. L'éblouissement, c'est à la fois être éclairé et aveuglé. Ça veut dire quand on est ébloui, on comprend pas très bien, mais on sait que c'est important, voilà. Et c'est exactement ça que vous nous avez laissé entendre avec votre philosophie. Philosophie aussi érudite, évidemment, très érudite, mais une érudition sensible, une érudition, en fait, qui passe par l'émotion. On a l'impression que vous ne parlez que de ce que vous avez aimé et que vous voulez nous permettre d'entendre en musique, d'entendre aussi à travers une narration dans laquelle vous présentez ces poètes avant de nous faire entendre leur œuvre. Merci beaucoup, Sylvain Aurel. Je rappelle que vous êtes chanteur sous le nom de Vieux, que votre podcast s'appelle le podcast Maudit, et que nous vous retrouverons bientôt au cinéma à travers toutes ces musiques des films qui, parfois, eh bien, se font discrètes, et puis parfois pas, et c'est très bien aussi. Cette émission a été réalisée par François Audouin, avec à la technique Michel Bézikian, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tous les matins à 10h exactement dans la caverne de France Inter sous le soleil de Platon.